je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Vous êtes dans l'actualité des luttes. Aujourd'hui, dans cette émission du lundi 24 juin 2024, il sera question de la Palestine. En effet, le 3 juin dernier, l'Union juive française pour la paix a invité Donna Nevels de Jewish for the Peace pour parler de l'évolution de l'état d'esprit et des positions politiques des Juifs aux États-Unis et de l'intense mobilisation qui y a cours depuis le 7 octobre. Cette rencontre se tenait donc le 3 juin dernier au Centre international des cultures populaires à Paris, au CICP.
Bonsoir, on va commencer bientôt. Comme vous pouvez vous rendre compte, Donna est à l'écran et pas avec nous parce que ce matin, elle a été testée positive au Covid. Je voulais, pour introduire, nous à l'UJFP en tant que juifs, on est dans une situation paradoxale. C'est intéressant d'avoir ce dialogue avec des juifs américains, donc militants de Jewish Peace, parce que, comme je dis ici, on est dans une situation paradoxale qui est que d'un côté, les Juifs sont de plus en plus critiques, enfin même si ce n'est pas une majorité, mais il y a une critique qui s'élève dans la population juive face à cette barbarie de l'État israélien sur les Palestiniens à Gaza en ce moment, et plus largement contre le peuple palestinien, parce que c'est la stratégie initiale du sionisme qui est mise en œuvre jusqu'au bout pour annihiler la présence palestinienne sur cette terre. Ça, c'est d'un côté. Cela entraîne, ce qu'on a pu observer depuis le mois d'octobre de l'année dernière, ça entraîne une mobilisation, une prise de conscience et une mobilisation croissante. Il y a eu, par exemple, des adhésions en assez grand nombre à l'UJFP de personnes qui se sont mobilisées sur cette idée que ce n'est pas possible de laisser faire ça. D'un autre côté, on est sous une entreprise de diffamation avec ce fameux amalgame antisionisme, antisémitisme, qui vient de la droite, de l'extrême droite, et aussi de certaines organisations se disant de gauche, mais qui nous critiquent sur le même terrain. Donc il y a cette manipulation de l'antisionisme et en même temps de ce philosémitisme qui retombe sur nous de façon négative, mais on se défend. On a, nous, de notre côté, des manifestations importantes, ici en France et dans plein de pays, Et d'un autre côté, on n'arrive pas à convaincre vraiment tout le monde. Il y a une très forte quand même opinion en France et ailleurs qui soutient Israël. Pas seulement les dirigeants, parce que ça, on le sait, les dirigeants occidentaux sont des soutiens de premier plan de la politique israélienne et de son génocide à Gaza. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a une opinion qui reste assez favorable à Israël, notamment dans la population juive. En France, donc, cet attachement, il y a cet attachement un peu aveugle d'une partie de la population juive, une grande partie, qui résiste à la compréhension de ce qui se passe réellement. Alors, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à voir avec nous plus de juifs en France? Et c'est ça qui va être un peu l'objet de la discussion avec Donna, alors qu'aux États-Unis, il y a une progression très sensible. Moi, je vois peut-être trois raisons. D'une part, beaucoup de juifs considèrent que Israël, c'est la bouée de sauvetage des juifs qui risquent toujours d'être discriminés, méprisés, etc. Deuxième idée, le monde entier en veut à Israël. Israël est une victime éternelle et donc il faut soutenir Israël, il faut sauver Israël. Et troisièmement, Israël est obligé de se défendre à n'importe quel coût. Avec cette mentalité d'être victimisé, d'être attaqué, c'est une posture qui fait l'impasse sur la nature humaine des Palestiniens. Et c'est comme ça que des gens restent accrochés à ce soutien à Israël et qui sont dans une cécité par rapport à l'idée que chaque vie humaine compte, chaque vie humaine a la même valeur. On va donner la parole à Donna. Je vais juste dire deux mots pour la présenter. C'est une militante historique de la cause palestinienne aux États-Unis qui a été au bureau de JVP. Elle n'y est plus actuellement, mais elle est dans toute l'organisation des manifestations, des prises de parole. Elle va participer à une grande rencontre internationale où nous serons, nous aussi, représentés par Richard, ici présent, et Béatrice, qui ne peut pas être là ce soir, et où il y aura des militants d'organisations juives critiques du sionisme ou antisionistes, d'Italie, des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Irlande, enfin de plein de pays. Ça aura lieu le 9 juin à Londres. Ma première question à Donna, ça sera: comment est-ce que les amis, les militants de Jewish Voice for Peace, JVP, réussissent-ils à entraîner autant de juifs dans la critique d'Israël? Bon, les juifs américains ne sont pas dans la même situation sociale, politique, historique que les juifs d'Europe, mais ça serait intéressant qu'elles nous disent comment JVP a réussi à entraîner beaucoup plus de critiques dans la population juive américaine qu'il y avait il y a quelques années.
So, just looking at the moment we're in, we know that we're in the middle of a genocide, and it has many manifestations. And every day, you know, when we look
merci
at the
merci beaucoup the news, à l'UJFP. Alors qu'on parle, comme on sait, il y a un génocide qui se déroule à Gaza. À chaque jour, on regarde les nouvelles et on est de plus en plus horrifié devant ce triste spectacle. Et pourtant, en même temps, il y a un mouvement de résistance internationale qui augmente, qui est très fort de jour en jour. Donc ça, c'est l'aspect positif. Il y a des similarités et il y a des différences entre les États-Unis et la France en général, et entre les Juifs américains et les Juifs français en particulier. Alors, je vais essayer de vous dire en deux mots comment nous avons fait ici, chez nous, aux États-Unis.
So, just a few things about the context in the U.S. And as I think you all have seen, there are unprecedented numbers of Jews.
Donc, le contexte aux États-Unis, c'est qu'il y a un nombre sans précédent de Juifs qui sont mobilisés sur cette question, qui ont pris conscience. C'était particulièrement marquant dans la jeunesse, mais ce n'est pas que les jeunes, il y a aussi les personnes plus âgées qui prennent la parole et qui organisent autour de cette question parmi les Juifs. À New York, vous avez vu les images, on les voit ici dans la salle, hein, de quelques actions que nous avons faites, et pas les moindres, la gare centrale ferroviaire de New York, le statut de la liberté, et j'en passe. Lorsque Voix juive pour la paix, Jewish Voice for Peace, notre association, lorsque nous faisons une action, nous le faisons toujours avec des partenaires, surtout quand ils ont besoin d'une voix juive. Et ils nous appellent toujours pour cette voix juive. Quand quelque chose se passe à New York, ça a des conséquences et, positives. Hein. C'est des rebondissements, si on peut, partout aux États-Unis. Moi, je suis une ancienne New-Yorkaise, j'habite à Miami maintenant, mais lorsque New York se mobilise, partout aux États-Unis, les Juifs se mobilisent.
So the student encampments, again, as we see in the United States and all across,
les étudiants qui se mobilisent sur les campus universitaires, c'est une grande inspiration pour nous. Évidemment, ça se passe aux États-Unis, mais à travers le monde aussi. Et c'est vraiment formidable. Et bien entendu qu'il y a beaucoup de répression de la part de la police, parfois la violence policière, mais malgré tout ça, on essaie toujours de garder l'œil sur Gaza, c'est-à-dire de parler avant et surtout de Gaza, même si cette répression policière existe et est un sujet d'actualité aussi. Les étudiants ne manifestent pas tout seuls, ils manifestent même sur le campus universitaire ensemble avec les enseignants, les professeurs de fac et du personnel des universités, du personnel non enseignant, donc les jeunes étudiants et les adultes plus âgés, les salariés ensemble. Ainsi que dans ce que Donna appelle la communauté. Ce n'a pas le même sens aux États-Unis. Communauté, ça ne veut pas dire la communauté juive, c'est-à-dire dans la ville, hein, avec les citoyens toute origine confondue.
One of the things also that's striking in the U.S. now is that social justice movements, immigrant rights, racial justice, trans and queer.
Je pense que Jewish Voice for Peace aux États-Unis n'est pas très différent des autres organisations antisionistes dans le monde, mais nous avons trois piliers. Et ça, moi, personnellement, ça me fait rire. Il y a les trois piliers du judaïsme, du Talmud. Alors, les trois piliers aux États-Unis de ce mouvement, c'est d'abord d'organiser contre ce génocide avec nos partenaires. Ça, c'est la première chose. Ensuite, aux États-Unis, on organise surtout et on revendique la fin du financement américain de ce génocide parce que le financement qui vient du gouvernement américain est derrière la réalisation, la perpétration de ce génocide. Et le troisième aspect, c'est qu'on est très clair dans notre discours, on ne dit toujours pas en notre nom ou des slogans semblables, mais pour dire que ce n'est pas les Juifs américains, hein, en l'occurrence, ce n'est pas les Juifs qui font ça, et ce n'est pas en notre nom qu'ils vont commettre ces crimes. Maintenant, nous avons le plaisir, si je peux dire de façon ironique, de la Ligue anti-diffamation, Anti-Defamation League, qui est une organisation aux États-Unis qui est l'équivalent de la LICRA en France. Et cette ligue aux États-Unis s'amuse à nous attaquer en plein génocide, nous les juifs antisionistes, et ils soutiennent ce génocide-là, hein, même s'ils se prétendent antiracistes. Voilà, la LICRA américaine, c'est ça qu'ils font. Aux États-Unis, c'est ce qui est formidable, c'est qu'il y a plusieurs questions qui touchent la justice sociale, pas seulement la Palestine, bien entendu. Il y a la question des immigrés, la discrimination raciale, les trans, la communauté LGBT, etc. Et tous ces groupes, tous ces secteurs se mobilisent aujourd'hui sur la Palestine. Même s'ils ont des revendications proches, la Palestine leur dit quelque chose et ils sont tous mobilisés. Donc ça, c'est quelque chose qui est marquant.
And just to give one example of how much the social justice organizations and communities across the country.
Un autre exemple de ce mouvement général pour la justice sociale, il y a une campagne qu'on appelle on va jeter à la poubelle cette ligue anti-diffamation, la LICRA américaine. On va le laisser tomber. Et la manifeste autour de cette campagne a été signée par des centaines d'organisations, et pas seulement d'organisations juives. Donc, c'est le rejet de cette LICRA locale, l'autre côté de l'Atlantique. Ce n'est pas qu'une lutte à l'intérieur de la communauté juive, mais quelque chose qui existe dans la société américaine dans, plus large dans son ensemble. Maintenant, la, cette ADL, ça c'est le sigle, ne travaille pas seule. Elle est, une, bon, disons qu'un allié où elle travaille avec, d'une façon ou d'une autre, l'administration américaine et le président Biden. Biden, dernièrement, a pondu un rapport sur l'antisémitisme aux États-Unis. Et dans ce rapport, il n'a même pas mentionné Israël, c'est-à-dire aucune critique d'Israël, c'est-à-dire dans ce rapport sur l'antisémitisme. Donc, c'était très problématique. Et l'ADL travaille avec l'administration sur cette longueur d'onde-là.
And of course, we consider that part of our responsibility to hold these Jewish organizations accountable, and particularly given the weight that they have and the way the administration looks to them.
La responsabilité des organisations juives est, est importante et nous leur tenons redevables pour cette situation et on demande des comptes à certaines organisations juives pro-sionistes, mais en même temps à l'administration américaine. Au niveau des comités locaux, il y a une prolifération de comités locaux de Jewish Voice for Peace, si on peut dire l'UJFP aux États-Unis. Moi, j'habite la Floride, c'est un État particulièrement fasciste pour la cité, mais avec les organisations étudiantes, avec les organisations musulmanes et d'autres, on travaille ensemble, on raconte l'histoire de ce qui se passait à Gaza, les reportages, les documentaires, les récits, et avec ces autres organisations, ces récits-là sont très répandus. Si je peux me permettre, un peu comme ce qu'on fait ici sur le site du GFP avec Gaza Stories.
And talking about this, the importance of bringing in new people at this moment, JVP has an incredibly systematic process. There are trainings and workshops.
Les nouveaux recrues qui viennent adhérer à JVP, on a des formations pour à leur intention sur comment s'organiser, sur les médias d'information, sur comment tenir une conversation ou un dialogue autour de la question de la Palestine, sur l'organisation dans la communauté, que ce soit la communauté juive ou la communauté tout court, dans le sens large du terme, l'éducation politique. On a un cursus sur l'antisémitisme, par exemple, qui s'insère dans le dans la logique d'une libération collective. On va dans les écoles avec ces cursus et on continue nos formations. Il y a une organisation qui s'appelle Palestiniens pour l'aide et on va avec cette organisation avec notre programme d'éducation politique. Alors les nouveaux recrues qui viennent d'adhérer, ils n'ont pas l'impression qu'ils vont juste s'insérer dans une organisation toute faite et qu'eux, ils n'auront pas un rôle particulièrement grand à jouer, mais on les équipe. Donc, ils sont équipés à travers ces formations à jouer un rôle et à devenir organisateurs eux-mêmes.
And I'll just end for now by saying I don't think we can underestimate the power of a global movement. I was recently in Basque Country and spoke at encampments there and
bon, ben, je vais conclure bientôt. Je voulais dire qu'il ne faut pas sous-estimer le travail qu'on fait et le fait qu'on peut avoir dans la population. Nous travaillons au niveau international. Ce mouvement est vraiment formidable, ce mouvement de résistance face au génocide. J'étais dans un autre État, par exemple, il n'y a pas longtemps, et voilà, l'écho, est, les gens sont à l'écoute et ils nous prêtent l'oreille. Donc ça, c'est important, il faut saisir le moment. Comme on vient de dire tout à l'heure, il y aura cette réunion internationale à Londres, à laquelle nous allons participer, à la fois du GFP, JVP aux États-Unis et d'autres à travers le monde. Donc on ressent tous un certain désespoir face à la tragédie, à ce drame au Proche-Orient, mais en même temps, nous sommes en train d'organiser quelque chose de très puissant en termes de résistance, en termes de solidarité au niveau local, bien entendu, mais également au niveau global. Donc, il ne faut pas sous-estimer tout ça. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment et je suis à l'écoute si vous avez des questions. Ça me fera plaisir de vous répondre.
<t'-> moi, c'est juste une question sur le Hamas. Est-ce que dans les, est-ce qu'on parle du Hamas hein, dans, leur, dans les fameuses réunions? Est-ce que qu'est-ce qu'on en dit, etc. Bon.
Now, I mean, where we are now, this many months later, when, for example, when media says, "What about Hamas?" we reframe and we say, we talk about the history of the Nakba and leading up to today. So we talk about that you have to put it in context. We also say that the reason we have supported a permanent ceasefire that obviously will...
Sur le Hamas, ça fait plusieurs mois maintenant depuis l'incursion du Hamas dans le sud d'Israël. Donc nous nous abstenons de répondre à ce genre de questions lorsque les journalistes nous le posent, en tout cas pas dans ces termes-là. Nous parlons de l'histoire de la Nakba, nous le mettons dans un contexte général. Nous revendiquons devant ces mêmes journalistes un cessez-le-feu permanent et dans ces conditions, s'il y aura un cessez-le-feu permanent, alors il y aura de la sécurité pour tous. Et c'est ça le vrai souci. Donc, dans les groupes d'études que nous menons, il y a Tarek, un intellectuel palestinien aux États-Unis qui a beaucoup travaillé sur la Nakba. Donc, on va citer ses travaux là-dessus. Donc, on refuse de la réduire à un seul incident, un incident horrible qui a eu lieu le 7 octobre, et on parle dans son contexte plus large. On ne se laisse pas piéger par ce genre de questions de la part des journalistes. Et les formations qu'on fait sur le travail avec les médias d'information, ça permettre à nos militants de pouvoir répondre à notre façon à ce genre de questions.
Bonjour. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de communauté, donc de faire ce rendez-vous à Londres. Ma question est pourquoi ne pas faire une communauté internationale, un peu comme le Forum économique mondial. Et là, c'est un forum pour la paix où se retrouvent toutes les communautés humaines, les juifs, les musulmans, toutes les religions, les LGBT, et faire ce forum international mondial pour la paix, contre les génocides et contre tous les crimes contre l'humanité.
So the first one on anti-Semitism, I think it's really important how we choose to address it because we don't want to unintentionally fall into a...
Pour répondre à la première question sur quels sont les contre-arguments qu'on peut avancer lorsqu'on est accusé d'antisémitisme, chez nous à JVP, nous sommes très clairs dans notre cursus de formation sur qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme et qu'est-ce que ce n'est pas. Tout d'abord, nous refusons d'exceptionnaliser l'antisémitisme parce que, en disant que ça a toujours existé, ça existera toujours et voilà, il n'y a rien à faire par rapport à ça. Ça, c'est la notion existentialiste qui est souvent évoquée par nos adversaires pour dire que c'est quelque chose qui a toujours été là et qu'il n'y en a rien à faire. Nous, on essaie de le mettre dans son contexte historique. On parle de l'histoire de l'antisémitisme, ses hauts et ses bas, les différentes formes qu'il a pris à travers les époques, et on le compare avec d'autres formes de discrimination, bien entendu. Donc, il y a à la fois la question de comprendre le phénomène de l'antisémitisme et en même temps de comment combattre l'antisémitisme. Et encore une fois, on refuse d'exceptionnaliser pour dire que les Juifs ont toujours été victimes et le seront toujours, et que puisque c'est si exceptionnel, il faut parler de ça plutôt que de parler d'autres formes de racisme. Nous rejetons cette approche. Nous sommes objet des attaques des partisans de l'IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, ça c'est l'Alliance internationale pour le souvenir de la Shoah, qui nous attaque ici en Europe, aussi bien qu'aux États-Unis, n'est-ce pas? Sur la question d'Israël et du sionisme, nous sommes également très clairs là-dessus dans notre discours public. Entre le fait d'être sioniste ou anti-sioniste, il ne peut pas avoir la confusion avec l'antisémitisme. Parce que notre antisionisme, c'est un refus de racisme. Donc, c'est exactement l'opposé de l'approche sioniste qui, eux, mettent en pratique une forme de racisme sur le terrain. Donc, Il y en a qui disent, oui, mais il y a certaines personnes qui se disent antisionistes, mais en fait sont antisémites. N'importe qui peut se présenter comme n'importe quoi et être antisémite. Donc, il n'y a pas de garantie. Hein? Mais de la clarté de notre discours et de notre approche sur cette question, on sait faire front à ce genre d'accusations diffamatoires. On essaie de recadrer toute cette problématique dans son contexte et de mettre devant notre message plutôt que de répondre toujours à une question diffamatoire qui ne correspond pas à la réalité.
I have not worked with, years ago I used to, I haven't kept up with them more recently. I know that at the time that I did have a relationship with them, and I think people in JBP did. I mean, I think anything where soldiers, IDF soldiers come out and talk about what went on.
Pour répondre à les deux dernières questions, en ce qui concerne Rompre le silence, cette association israélienne, Breaking the Silence, composée de soldats qui témoignent de ce dont ils étaient, ils ont assisté, ou ce dont ils ont fait eux-mêmes en tant que soldats de l'armée israélienne. Ça fait quelques années que je n'ai pas été en contact proche avec eux, mais maintenant que vous posez la question, ça me donne envie de prendre contact de nouveau. Les soldats de l'armée israélienne qui témoignent des atrocités qu'eux-mêmes ils auront pu commettre, je pense que c'est quelque chose d'important pour le public israélien et au niveau international. Dans notre cursus de formation sur la NACPA, on parle de... Il y a dans ce cursus des témoignages des soldats en 1948 qui racontent qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Et en général, je pense que les groupes les personnes membres des groupes qui parlent de leur expérience personnelle dans ces événements historiques, que ce soit des soldats israéliens lors de la NACPA ou d'autres groupes, c'est quelque chose de très puissant et de très marquant. Donc c'est important. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation internationale, il y avait une question, est-ce qu'on peut faire un forum économique international comme le forum de solidarité internationale, comme il y a ce forum économique international, n'est-ce pas? Bon, les rencontres internationales, il y en a. On va le faire au niveau du collectif juif international pour la justice en Palestine le week-end prochain à Londres. Dans notre collectif, nous avons une quinzaine de pays maintenant, une quinzaine d'organisations juives dans plus d'une dizaine de pays. Tous ces groupes-là travaillent en partenariat avec des Palestiniens sur place, au niveau local, dans nos actions de solidarité. On met de l'avant nos politiques et on pense dans un contexte politique. On réfléchit ensemble sur les stratégies à mettre en œuvre. On se soutient mutuellement les uns et les autres, nous, les organisations juives, comme les autres organisations qui sont engagées dans le mouvement de solidarité. À titre d'exemple, au collectif juif international, nous avons un groupe en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, c'est une toute petite communauté juive et c'est une organisation nouvelle qui a adhéré au collectif récemment. Mais le fait qu'ils ont pu bénéficier de l'expérience des organisations qui ont une histoire plus longue, avec des communautés juives plus grandes, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça renforce nos camarades néo-zélandais pour faire leur travail sur le terrain, et ils font un excellent travail. Donc le rôle, la fonction et les effets, si on peut dire, de ce collectif juif international est réel, même dans un pays éloigné avec une toute petite communauté juive et avec une adhésion récente à notre collectif. Donc, au niveau international, ça fait 4 ans qu'on existe comme collectif. On devait se réunir à ce moment-là, il y a 4 ans, en 2020, mais il y a eu la crise sanitaire avec le COVID qui a mis fin à toute rencontre, à tout voyage international et toute rencontre en personne, évidemment. Donc, ça fait 4 ans qu'on se réunit tous les mois par Zoom. Hein. Et maintenant, on va se voir en chair et en os à Londres dans une petite semaine. J'ai travaillé au Pays Basque et j'ai pu apprécier toute l'importance d'un travail dans une communauté locale liée à une question internationale. Donc, il y a le global et il y a le local.
Vous êtes toujours en train d'écouter Donna Neville de Jewish for the Peace, un enregistrement qui a été réalisé le 3 juin dernier, organisé par l'Union juive française pour la paix.
Je voulais vous interroger sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où on sait évidemment la part que le gouvernement américain prend dans les horreurs en Palestine et à Gaza, voilà, on le sait, mais apparemment, pour la gauche européenne, ce gouvernement américain aurait tendance à se racheter en proposant le cessez-le-feu, et un cessez-le-feu qui déboucherait à terme sur une solution à 2 États, c'est-à-dire que ce serait un peu la panacée. Ce serait une solution un peu magique. Tout d'un coup, il y aurait un État palestinien à côté de l'État juif. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet optimisme à l'égard de la solution à 2 États? Et par ailleurs, je voulais vous demander si, aux États-Unis, vous suivez un peu ce qui se passe en France, que les réactions de l'opinion, les réactions des partis, en particulier de la gauche, à l'égard de ce qui se passe au Proche-Orient. Et puis, en particulier dans les élections européennes, où il y a à gauche 2 candidats qui sont en opposition et qui se critiquent en ce qui concerne les positions sur le Proche-Orient. C'est Jean-Luc Mélenchon, qui est accusé d'antisémitisme à tout va, et puis un candidat juif qui a des chances d'être le premier à gauche et peut-être le numéro 2 dans les élections européennes, qui est Raphaël Glucksmann. Alors, est-ce que vous suivez ça aux États-Unis? Est-ce que ça parvient jusqu'à vous? Est-ce que vous avez une opinion?
I have not heard. I mean, you know, we hear when issues are coming up with different elections and people being accused of anti-Semitism because it's happening so often in different countries. I can't say I feel I'm not familiar so much with. Like the French context and what you're just talking about, so I couldn't really speak to it. I don't know, Alan, if you know more than I do about it.
I don't know about the...
Aux États-Unis, tout d'abord, c'est Donald qui parle. L'accusation d'antisémitisme, oui, il y a que ça. On entend ça tous les jours, mais j'ai pas entendu les particularités en France de qui est accusé à quel moment d'antisémitisme, mais on entend ça tous les jours. Hein. Maintenant, Alan, son mari, dit que les positions des 2 candidats en France de la gauche aux élections européennes, on n'entend pas les détails, les Américains ne sont pas au courant, mais on est au courant en général de cette pression qui existe en France, en Allemagne, et cette division dans la gauche aussi, et le fait que la définition de l'Alliance internationale pour le souvenir de la Shoah, IHRA, sa définition d'antisémitisme est utilisée comme une arme de destruction massive pour essayer de nous rendre au silence. Ça, c'est mon expression, arme de destruction massive. Il est dit, c'est le major weapon, c'est l'arme principale, en effet. Et le premier amendement de la Constitution américaine nous donne des outils pour lutter contre ça au niveau de la liberté d'expression. Voilà, donc on s'y met. Maintenant, Donna rajoute que le président Biden sent la pression. C'est pour ça que dernièrement, il a parlé de la solution des 2 États comme... Mais c'est extrêmement problématique, cette solution des 2 États. Il y a une organisation juive de centre-gauche aux États-Unis, un peu consensuelle, qui s'appelle J Street, vaguement pour la paix, mais sans plus. Et il parle aussi, J Street, de la solution de deux États, comme si on pouvait sortir un lapin d'un chapeau. Voilà la solution magique. Mais ce n'est pas très réaliste. Donc, ça fait partie du problème, le fait qu'une partie de la gauche modérée dans la communauté juive aux États-Unis, incarnée par J Street, mette ça tout le temps de l'avant. Solution de deux États. C'est un peu hors sol.
Les universités américaines se sont révoltées. Il y a eu des présidents et présidentes d'universités qui ont dû démissionner. Les campus ont été occupés. Comment vous êtes positionné sur cette mobilisation et qu'en pensez-vous?
Hi Donna, I'm going to ask in English because it's actually easier for me to. You spoke about the uncomfortable conversations sometimes, and the one I seem to get involved in, and you did bring up anti-Semitism before, but when this war is reframed as a defense against anti-Semitism exclusively.
Pour la salle, la question tout autour de ces conversations qu'on a mal à l'aise sur la guerre à Gaza, sur l'antisémitisme, on dit que dans cette guerre, c'est comme si on se défendait face à l'antisémitisme, contre l'antisémitisme dans ce conflit par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Quand j'utilise le mot génocide, mes amis, les membres de ma famille qui sont juifs, ils sont horrifiés parce qu'ils ont dit que si nous, les juifs, avons subi un génocide, nous ne pouvons pas le faire subir à d'autres. Ça, c'est une réaction que j'entends souvent. Une autre question, Donna, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des médias sociaux comme outil ou comme arme dans le mouvement Solidarité pour faire face à toute cette offensive dont nous sommes objets? Sur la première question de Sonia, comment je suis devenu anti-sioniste, parce que j'ai eu une éducation de sioniste dans un cadre socialiste. Je m'identifiais comme un sioniste socialiste, c'était en 1967. Mais avec la guerre de six jours, j'étais tout de suite opposé à l'occupation des territoires palestiniens. Alors là, pas de problème. Ceci dit, je ne savais rien à ce moment-là au sujet de la Nakba. La Nakba, je l'ai appris en 1988-89, ces années-là. Il y avait à ce moment-là une conférence internationale pour la paix entre Israéliens et Palestiniens qui s'est tenue à l'Université Columbia à New York. C'est là où il y a eu ce grand campement d'étudiants sur le campus contre l'actuel génocide à Gaza. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris de ce qui s'est passé sur le terrain en 1948. Alors, mon sionisme, le sionisme socialiste avec lequel je m'identifiais, c'était théorique. J'ai étudié les textes de Martin Buber et des autres intellectuels, mais ce n'était pas historique dans la mesure où je ne savais pas ce qui s'est passé réellement dans l'histoire, dans le déroulement des événements à partir de 1948. Quand j'ai souvent dit, comme une mauvaise blague juive, que je connaissais plus sur le sionisme que tout autre sujet, quel qu'il soit. Hein. Mais en connaissant tout sur le sionisme, on connaît rien sur la Nakba. Hein. Voilà, c'est une question d'éducation. Donc, tout ça a changé en 1988-89 pour moi, quand j'ai appris ce qui s'est passé dans la Nakba. Et après, je m'identifiais comme une juive non sioniste. Je n'étais pas sioniste. Mais je ne me disais pas anti-sioniste à ce moment-là. Ceci dit, l'identité anti-sioniste est importante pour moi maintenant, et je mets ça de l'avant, et je l'ai acquis en travaillant avec des Palestiniens qui, eux, ont survécu à la Nakba.
I remember the third question about hard conversations, and yeah. And yeah, I mean, Also, I want to say, I consider it part of my responsibility to have those hard conversations. Other people don't, and I feel like you should only, one should do it if one
Je pense que c'est une responsabilité de notre part d'affronter, si vous voulez, ou confronter toutes ces questions de conversation où on est mal à l'aise sur les questions de l'antisémitisme, sur les questions du génocide à Gaza. Pour moi, c'est important de faire des formations de pédagogiques dans les séances de formation que nous menons. C'est un grand impact. Maintenant, tout le monde n'a pas l'esprit très ouvert pour être à l'écoute de ce genre de choses, mais ceux qui ont un esprit ouvert, ils apprennent beaucoup. Par ailleurs, c'est pour vous intéresser de regarder notre cursus de formation sur cette question. Vous pouvez le regarder sur Internet, ça s'appelle project48.com, project écrit à l'anglaise. Évidemment, c'est en anglais, ces formations, mais il y a beaucoup de visuels aussi. Donc, en bon anglais, project, c'est P-R-O-J-E-C-T, project, 48.com, d'accord? Le mot génocide, on a des problèmes avec ça, mais on a des problèmes avec le mot apartheid aussi. Quand on parle de génocide, surtout chez les Juifs, on parle spontanément à la Shoah. Quand on parle d'apartheid, on pense spontanément à l'Afrique du Sud. Maintenant, dire qu'Israël est en train de commettre un génocide, ça suscite des réactions comme on peut s'attendre de la part de beaucoup de Juifs. Mais en même temps, quand on dit qu'Israël pratique une forme d'apartheid, ça aussi, ça suscite les mêmes résistances chez ceux qui ne sont pas convaincus ou qui ne sont pas au courant ou qui ne veulent pas comprendre. Mais je pense qu'il ne faut pas édulcorer notre discours ou les mots qu'on utilise. Je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom, d'être clair dans notre langage et d'être pédagogique. Hein. Si on s'abstient d'utiliser le terme génocide parce que ça braque beaucoup de Juifs, ou si on s'abstient d'utiliser le terme apartheid parce que ça braque d'autres Juifs, on ne renforce pas notre camp. Au contraire, on esquive la question. Donc, il faut l'affronter. Quand on parle de cette vocabulaire, de cette terminologie et des questions qui sont autour dans les ateliers de formation, ça passe. C'est la même chose à peu près avec les questions qui nous sont posées par les journalistes sur le Hamas. C'est dans les formations qu'on peut clarifier la chose.
Genocide, the term defined under international law, it is the most serious crime against humanity, and it is defined as an attempt to eliminate in whole or in part a particular people.
Je vais traduire Alain et ensuite quelque chose que Donna avait dit avant. Donc dans sa réponse, Alain il dit que le génocide, les experts judiciaires qui travaillent sur cette question en droit international, c'est très clair, le génocide c'est le pire crime contre l'humanité dans le corpus du droit international et c'est défini par une tentative d'éliminer entièrement ou en partie un peuple. Quand la Cour internationale de justice s'est penchée là-dessus, elle a jugé que ces allégations étaient plausibles en citant notamment des dirigeants israéliens. Ben Gvir, par exemple, qui a parlé des animaux humains, qui a dit qu'on va couper l'approvisionnement en électricité, en eau et en nourriture au Gazouis, et les déclarations comparables faites par Netanyahu. Depuis le 7 octobre, la Cour a décidé a jugé que Israël n'avait pas seulement émis des intentions, mais qu'il le mette en œuvre. Et donc, il y a des preuves substantielles ou des indices substantiels qui disent qu'il y a un risque de génocide. Ce n'est pas seulement de la rhétorique, ce sont des allégations plausibles devant la Cour. Maintenant, devant les tribunaux américains, il y a une organisation des droits de l'homme aux États-Unis qui a également intenté une action. Le juge a dit qu'il n'avait pas le pouvoir de forcer la main du gouvernement américain, mais néanmoins, il a étudié la plainte et il a dit dans son arrêt qu'il y a des il y a des évidences assez plausibles pour dire qu'à la fois Israël est en train de commettre un génocide et que les États-Unis en est complice. Et pour les Juifs qui ont grandi dans l'ombre de la Shoah, ça c'est quelque chose de terrible à entendre et à encaisser, mais voilà. Ça a été dit par les tribunaux au niveau international et au niveau américain. Lorsque la Cour internationale de justice a émis lorsque le procureur a réclamé les mandats d'arrestation contre Netanyahu et Ben-Gvir, c'était sur la base de la famine imposée aux Palestiniens, c'est-à-dire de couper l'approvisionnement de nourriture à ce territoire, c'est clair pour les juristes, c'est clairement une tentative de génocide. Là, je vais traduire ce que Donna a dit auparavant sur les mobilisations sur les campus universitaires aux États-Unis, sur la question palestinienne, c'est quelque chose d'énorme. Mais c'est pas seulement sur la question de la Palestine, ça touche aussi la question de l'éducation progressiste en général, et c'est un mouvement majeur. C'est fait à la fois par les étudiants, mais aussi avec les professeurs dans les facs. Et on voit les présidents des universités, dont certains étaient contraints à la démission, qui, quand même, un président d'université, c'est pas un analphabète, hein, c'est des gens d'un certain niveau culturel, et on penserait qu'ils pouvaient répondre à une question. Hein, mais ils ont tourné autour du pot. Et il babutait une réponse un peu dérisoire et incapable vraiment de faire face à une question simple à ce sujet. Et donc, ils se sont ridiculisés. Hein. Et ce mouvement est en train de grandir, de prendre de l'ampleur de jour en jour. Et les étudiants à Columbia, à New York, ils ne lâchent pas le morceau. Ils revendiquaient, par exemple, que l'université coupe ses relations avec les universités américaines et le complexe militaro-industriel en Israël. Le président de la fac dit oui, mais non. Et les étudiants, ils ne lâchent pas le morceau. Ils reviennent toujours avec cette même revendication, malgré la diffamation et la répression dont ils sont objets. C'est cette ténacité de ces étudiants qui est remarquable. Donc c'est vraiment un mouvement énorme aux États-Unis et nous en sommes bien contents. Voilà.
And I think part of it was because the attacks were coming in about accusing supporters of Palestinian justice of anti-Semitism, that people wanted to know more about what anti-Semitism is and what it isn't. And we don't just focus on
sur
what it
la
isn't.
Question de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, nous à GVP, on avait ficelé notre cursus pédagogique sur la question de l'antisémitisme un mois avant le 7 octobre, et lorsque le 7 octobre est arrivé, on a mis ça de côté parce qu'on pensait que ce n'était pas l'urgence de l'heure. Mais nous avons rapidement utilisé ce cursus un peu partout parce qu'on a reçu des demandes à droite et à gauche des gens qui étaient victimes des attaques. Leur directeur disait qu'ils étaient antisémites quand ils soutenaient la population civile à Gaza. Et ils voulaient savoir ben, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme au juste. Hein? Nous avons enseigné pas seulement sur ce que l'antisémitisme ne l'est pas, mais surtout sur ce qu'il est, hein, parce qu'il existe, il est réel. Aux États-Unis, le contexte particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'antisémitisme de l'extrême droite raciste. Donna n'a pas mentionné le Ku Klux Klan, mais ce genre de choses, des trolls, des adeptes de la théorie de complot, les milices fachos aux États-Unis, ils sont viscéralement antisémites, pas seulement raciste contre la communauté noire. Hein. Et nous avons utilisé ce cursus maintenant en Europe et en Norvège, au Pays Basque. C'est devenu international. Au début, c'était purement américain et c'était fait dans le contexte américain. Mais on se rend compte que cette question se pose un peu partout. Donc nous utilisons cette formation au profit des personnes qui nous le demandent à l'étranger. Et on le fait un peu moins centré sur la situation spécifique aux États-Unis et pour parler de façon un peu plus globale. Il faut comprendre que c'est très dangereux d'utiliser cette accusation fallacieuse d'antisémitisme contre les personnes qui critiquent la politique israélienne, pas seulement parce que c'est dangereux pour le mouvement pro-palestinien, mais c'est une entrave à la véritable lutte contre l'antisémitisme et ça nous empêche de lutter de façon efficace contre l'antisémitisme. Le vrai, c'est celle qui vient de l'extrême droite et des milieux racistes. Donc nous sommes très clairs là-dessus et très forts là-dessus.
À quel point Jewish Voice for Peace et l'Union juive française pour la paix arrivent à intégrer les mouvements des étudiants en cette période dans les facs, parce que le fait de pouvoir renouveler l'âge des adhérents, enfin des personnes qui participent, c'est, je crois, crucial. Et là, j'ai 50 ans et je suis parmi les plus jeunes en salle. C'est une vraie question parce que c'est une chose très intéressante pour le futur. Et deuxième chose, ce qui m'intéressait, quelle est la situation, s'il y a des associations juives anti-sionistes en Italie et en Allemagne, si vous en savez quelque chose. En Italie, je demande parce que je viens de là et je m'occupe de la politique en Italie. Et en Allemagne, parce que ça me préoccupe beaucoup, même l'approche des partis de gauche en Allemagne par rapport au sujet. Dernière chose, vous venez de parler de l'antisémitisme et moi j'ai fait des études de langue et littérature étrangère dont l'arabe et donc il y avait le département de langue sémitique. Je me suis toujours demandé pourquoi on parle d'antisémitisme juste en direction des juifs et pourquoi on ne mettrait pas l'accent sur le fait que même les islamophobes c'est des antisémites. Et pourquoi on n'essaye pas de... s'il y a une possibilité de mettre l'accent sur la sémantique des mots pour unir les luttes contre les racistes. Voilà, merci beaucoup.
Going back to the, I'm sorry, also I think this might have to be my last question because I'm starting not to feel so great. I think the part about young people, JVP is really multi-generational and has lots and lots of young people. And
pour répondre à cette question, tout d'abord, par rapport aux jeunes à GVP aux États-Unis, nous sommes très multigénérationnels. Il y a des personnes plus âgées, mais il y a beaucoup de jeunes. Et c'est une expérience de partage. À la fois, les jeunes profitent de l'expérience des anciens qui ont un bagage organisationnel et politique derrière eux. Et en même temps, les anciens sont inspirés par cet dynamisme de la jeunesse juive américaine qui se mobilise maintenant pour la Palestine. La question de la direction, leadership en bon français, leadership comme on dit, c'est multigénérationnel aussi chez GVP. Dès que les nouveaux rentrent, surtout des jeunes, on organise des formations à leur attention et on fait ça exprès. Hein. On est très conscient de l'importance de la formation. Et la formation est dans les deux sens. Évidemment, les anciens vont essayer de transmettre aux jeunes leur propre expérience et leur propre connaissance, mais les jeunes aussi arrivent avec des nouveaux modes d'organisation, avec leur méthode et leur vision. Et donc, chacun trouve sa place. Ce n'est pas un processus du sommet vers la base où un groupe de dirigeants vont dispenser une formation un peu magistrale aux nouveaux qui viennent rentrer, mais c'est un échange dans les deux sens. Ça prend beaucoup de travail pour faire ça. Ce n'est pas si évident que ça. Mais je pense que c'est nécessaire et nous essayons de le faire. sur l'Allemagne. Bien entendu, il y a une organisation juive allemande importante qui, dans notre collectif, le collectif juif international pour la justice en Palestine, qui se mobilise sur le terrain autour de cette génocide à Gaza, qui est victime de beaucoup de répression. C'est très dur maintenant à militer en Allemagne, mais ils tiennent bon, ils le font, ils seront avec nous à Londres la semaine prochaine. Sur l'Italie, je ne suis pas tellement au courant. Sonia peut nous dire un mot sur la situation des juifs antisionistes italiens. Donna, répondre à la dernière question du camarade, à savoir l'antisémitisme et l'islamophobie. Quand on parle d'antisémitisme, ça concerne les Arabes autant que les Juifs. C'est tout simplement parce que dans l'histoire, le terme antisémitisme a été utilisé pour la première fois en référence aux Juifs, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'interactions entre les discriminations subies par les Juifs et par les Arabes. Il y a un lien assez évident dans le mouvement de solidarité avec la Palestine sur la lutte contre l'islamophobie aussi, parce que les communautés musulmanes dans les pays non musulmans comme en Europe ou aux États-Unis, ils sont objets de beaucoup de discrimination et ils sont très mobilisés sur la question palestinienne et donc ils sont sensibles à ça. Un des thèmes principal des conservateurs, quand ils lancent des accusations d'antisémitisme, ils évoquent la guerre contre la terreur ou contre le terrorisme. Et les musulmans se sont visés et donc ils sont en plein dans le collimateur des racistes qui les accusent de tous les maux. Juifs et musulmans sont ensemble dans cette offensive raciste de la droite. Même si le terme antisémitisme est utilisé principalement contre les Juifs et pas contre les Arabes. Mais dans les faits, ça s'applique aux deux. Sonia peut dire un mot sur les organisations juives antisionistes en Italie.
Ce n'est pas des organisations antisionistes. Il y avait du temps où le regroupement européen qui s'appelle le EJJP, European Jews for Just Peace, était actif, il y avait une organisation qui s'appelait Ebrei contra l'occupazione. Mais le leader, plus ou moins, enfin, il y avait un universitaire très important, très, très intéressant, très instruit, bien sûr, et très militant. Il est mort. Et depuis, déjà, c'était un groupe qui battait un peu de l'aile, qui n'était pas très actif. Et donc, il n'y a plus rien. Donc, c'est juste l'information que je voulais donner.
I'm a little tired, but I do want to say that anyone who wants to email with me and engage or wants resources, I'm more than happy to do it. Maybe one more question. I mean, I'm just feeling
okay,
up a little bit.
I understand. Elle est trop fatiguée pour continuer à répondre à des questions. Thank you very much, especially in the state you are now. And Alan, too, was very interesting in answering some questions. So thank you very much.
Je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça avait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.